Bonjour tout le monde, bonjour Alice. Merci.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous arrivez depuis peu du Québec en plus, donc ça doit être un peu rude, mais ça va bien se passer. Donc moi, je suis le modérateur. C'est une rencontre qui est une rencontre prioritairement scolaire, ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas la parole. Simplement, elle va se dérouler de façon un petit peu différente d'une rencontre habituelle. Moi, je vais rapidement, au cas où, dans l'Assemblée, puisque je vois une Assemblée assez variée, certains ou certaines n'aient pas encore lu le livre d'Alice, je vais présenter rapidement son roman. Je vais lancer la première question et après, mon rôle va être de répartir la parole, puisque les collégiens qui sont ici présents ont lu le roman d'Alice, en ont discuté, ont a priori plein de questions, et c'est prioritairement à eux que nous allons nous adresser, que Alice répondra. Alors, Alice, ce roman s'appelle donc La colère et l'envie. C'est un roman qui a bousculé et bouleversé de nombreux lecteurs et de nombreuses lectrices. Les retours qu'on a sont assez émotionnants, comme on dit. Et c'est aussi un livre qui a déjà reçu pas mal de prix. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, pour que vous sachiez ensuite de quoi on parle, rapidement, c'est un roman qui raconte l'histoire d'Isor, enfant puis adolescente, qui est une personne qu'on va qualifier de différente, de atypique. Ses parents comprennent très tôt qu'il y a quelque chose, mais quoi, on ne le sait pas. Elle est capable de parler, elle imite d'ailleurs à la perfection la tonalité de n'importe quelle langue, de n'importe quel pays, mais a priori, en dehors de ça, elle ne s'exprime pas. Elle a sa propre logique, mais elle est difficile à déchiffrer. Elle est sensible et capable d'un certain nombre d'interactions, mais Isor reste indomptable, imprévisible et régulièrement en proie à des accès de violence qui sont, il faut bien le dire, assez dévastateurs. Donc elle va passer toute une batterie de tests, voir des tonnes de spécialistes, mais aucun ne sera en mesure de mettre un nom sur ce qu'elle a, ou plus exactement sur ce qu'elle est. Le roman se déroule en trois parties. On a une première partie où seuls ses parents s'expriment sous forme de paragraphes courts qui sont intitulés « Père et mère » et chacun nous expose sa vision des choses et un certain nombre de situations. Dans la deuxième partie, Isor va faire la connaissance de Lucien, qui est son voisin, qui est un monsieur assez âgé de plus de 70 ans, qui est enfermé dans son monde et dans ses émotions. Et contre toute attente, Isor et Lucien vont se rencontrer. Il va se jouer quelque chose de très fort entre les deux. Ils vont se comprendre, s'aimer, se faire évoluer l'un l'autre. Et dans la troisième partie, Isor va se mettre en mouvement vraiment physiquement et dans une sorte de voyage initiatique, elle va enfin prendre corps, prendre sens, se trouver sa voie, au propre et au figuré d'ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de lettres qu'elle écrit à ses parents pour expliquer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et comment justement elle vit son évolution. Et c'est des lettres qui sont vraiment pleine de vie, pleine d'humour et aussi pleine de poésie. Donc c'est un roman, vous l'aurez compris, je m'arrête là pour la présentation, qui porte de nombreux questionnements, qui parle de notre rapport aux autres, de notre rapport à la famille, de notre rapport à la norme, à la différence, mais aussi, on l'évoquera peut-être, de notre rapport à la magie et au vrai sens des choses. C'est un roman où il y a aussi qui n'élude pas la souffrance et la violence, mais qui nous mène vers une sorte d'apaisement vers la fin du roman, et qui n'est pas un apaisement de renoncement, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est un apaisement qui est au contraire plein d'espoir et plein d'énergie. Alors, pour lancer ce débat et cette rencontre, moi j'ai envie de vous poser une première question, puisqu'on est dans le cadre des premiers romans. Souvent la première question c'est comment est-ce que vous êtes arrivé à écrire ce premier roman ? Est-ce que la lecture et l'écriture étaient quelque chose qui vous habite depuis longtemps ? Quel rapport vous avez à la lecture et l'écriture ?
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse qu'il y ait un jeune public qui ait lu mon livre parce que c'est pas si courant que ça. Donc je me réjouis de parler avec vous aujourd'hui. Et c'est vrai que peut-être parmi vous, il y en a qui écrivent et ça vous intéresse de comprendre comment on en arrive à créer un roman et à le publier. Moi, quand j'étais enfant, je n'aimais pas du tout lire.
Comme ça, c'est clair.
Je me souviens du jour où mes parents m'ont offert pour la première fois un livre. C'était Harry Potter et j'ai pleuré parce que je trouvais que m'offrir un livre, c'était vraiment un cadeau très ennuyeux. Donc, c'est vraiment un rapport très fort de haine avec la lecture. Mais par contre, l'écriture, ça a depuis longtemps fait partie de ce que j'aimais faire. J'aimais beaucoup écrire des petits poèmes quand j'étais enfant. Mais ça a commencé à prendre une autre dimension à la fin de mon année de seconde. Parce qu'au tout début de l'été, mes parents m'ont offert une machine à écrire. Et j'ai passé mon été à écrire avec cette machine à écrire. Et c'est là que j'ai compris à quel point c'était une activité qui était essentielle pour moi pour gérer mes émotions qui sont très débordantes et que je pouvais en faire quelque chose d'utile pour les autres, que ça se tourne vers les autres, parce que souvent on dit qu'on commence à écrire pour soi parce que ça nous fait du bien, mais je pense qu'on passe un cap un peu quand on comprend aussi qu'on écrit pour les autres et qu'on veut leur faire un cadeau. Et là, un jour on m'avait demandé quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se met à écrire, c'est de se demander pour qui il écrit et en quoi est-ce qu'il écrit un cadeau. Et je me suis rendu compte que peut-être toutes les émotions que je vivais, ça pouvait aider les autres, leur faire vivre des choses, de la même manière que Isor, qui a plein d'émotions, fait vivre toute cette panoplie d'émotions à Lucien qui en a plus beaucoup. De la même manière, moi qui déborde un peu de plein de couleurs, je peux donner ces couleurs aux autres.
Et j'ai cru lire aussi que, alors je ne sais pas si c'est avec cette même machine à écrire, mais que vous aviez, dès 14 ans, entretenu une correspondance virtuelle avec une amie imaginaire.
Oui, c'est ça.
Et est-ce que, du coup, aussi, cette forme d'écriture qui vous a justement donné envie d'écrire, fait comprendre que vous pouviez partager, que vous pouviez aussi gérer vos émotions ?
Justement, en fait, le format de la lettre qui m'est venu directement, il y a cette question de l'adresse. Pour qui j'écris ? Je parle à quelqu'un, je ne me parle pas à moi-même, parce que j'écris pour entrer dans un dialogue. J'ai toujours eu cette frustration de ne pas comprendre pourquoi on est une âme enfermée dans un corps. Pourquoi on ne pourrait pas être deux âmes dans le même corps ? Pourquoi on ne pourrait pas fusionner avec quelqu'un d'autre ? Et la question que j'ai une intériorité et qu'elle n'est pas lisible pour les autres, ça m'a toujours beaucoup frustrée et j'ai toujours eu envie de pouvoir vraiment partager ce qui se passe à l'intérieur de moi et de rendre clair comme une vitre ce qui se passe, donc d'adresser et de partager, voilà.
Donc ça, c'est le moteur de l'écriture, et le livre arrive un peu plus tard. Alors on va le voir, peut-être il y a des questions sur le livre. Donc quelles sont les questions que vous aviez prévues de poser à Alice autour du livre, autour de son travail d'écriture, de la publication? Allez, qui veut bien lancer la première, mademoiselle? On va vous passer un micro parce que sinon on n'entendra que dalle.
Bonjour, je suis une élève de 3e et j'aurais une question à vous poser. C'est pourquoi avoir choisi ce titre pour votre premier roman ?
Toi, est-ce que tu aurais eu l'idée d'un autre titre qui te semblait plus naturel ?
Non, pas forcément, mais je voulais savoir comment cette idée de titre vous est venue.
En fait, quand j'ai eu l'idée de ce roman, tout de suite, j'ai eu le titre, c'est lui qui est venu en premier, avec une des phrases, qui n'est pas la première phrase du livre, mais qui est dans la première page, qui est « Elle avait toujours été frappée d'une forme de débilité sur laquelle personne n'osa réellement poser de nom. J'ai eu ce titre et cette phrase en m'endormant une nuit. Et c'était comme un éclair où j'avais compris que la colère et l'envie, c'était un mouvement de balancier dans lequel j'étais coincée. parce que j'avais une envie débordante de découvrir le monde, de rencontrer d'autres personnes, d'être en contact avec la réalité, mais que ce désir étant ne trouvant pas sa place et pouvant pas se réaliser, je basculais dans des moments de grande colère. Et j'avais envie que tout le livre, ça soit ce mouvement de balancier, mais aussi à la fin, ce mouvement de balancier, il est brisé et on peut enfin passer de la colère vers l'envie, que ça soit définitivement l'envie qui prenne sa place. Et à la fin, Isor, comme quand elle se lance dans son voyage, elle peut enfin rencontrer le monde. Et du coup, elle peut se dépouiller de sa colère. Voilà, c'est ça le sens du titre.
Sur le titre, je suppose qu'on vous a déjà dit plein de fois que la colère et l'envie, c'est deux des péchés capitaux. Donc, est-ce que ça vous a posé question ou vous posez question à votre éditeur de dire ah ouais, mais ça fait un peu religieux ou les gens vont peut-être se méprendre en lisant le titre
C'est vrai qu'il y a un côté assez brutal, voire repoussant.
Non, c'est pas ce que je dis.
On m'a déjà dit, tu aurais pu trouver un titre plus positif, etc. Pour moi, l'envie, c'est pas au sens du péché, de jalousie. C'est l'envie au sens du désir. Et pour moi, il y a rien de plus beau que le désir. C'est vraiment le moteur le plus puissant, le plus généreux, le plus celui qui nous fait agir de la plus belle manière, c'est le désir. Et la colère, j'ai beaucoup changé d'avis sur la colère, mais pendant longtemps, j'ai quand même aimé la colère en tant que émotion vitalisante. Et il y a beaucoup, aujourd'hui, par exemple, dans la lutte féministe, la colère est investie de beaucoup de force. Enfin, disons, les féministes invitent à éprouver la colère pour regagner du pouvoir. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne veux plus tirer ma puissance de la colère, mais je comprends que ça soit une émotion très importante pour quelqu'un qui a besoin de s'affirmer.
Voilà. Tout à fait, on peut en faire quelque chose de positif. Autre question ? Jeune homme.
Vous êtes-vous inspiré de personnes réelles pour créer des personnages d'Isor et de Lucien ?
C'est une question qu'on me pose beaucoup et je me demande... Je pense que c'est naturel pour tous les lecteurs de chercher à comprendre quelle est la part de vérité, mais je ne cerne pas encore forcément bien ce que ça change dans la perception qu'on a du livre, de savoir s'il est vrai ou pas. Isor, c'est ce qui m'intéresse quand j'ai écrit, c'est de pouvoir me mettre à la place de quelqu'un d'autre qui me ressemble pas du tout, et d'offrir comme expérience au lecteur que lui aussi il se mette dans la peau, dans le corps de quelqu'un qui lui ressemble pas, et que pour tout le monde, pour l'écrivain et pour le lecteur, ça soit un exercice de sortie de soi-même. Mais Isor, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup, donc c'est une autre forme d'altérité. C'est comme si c'était moi, mais une autre version de moi. Et c'est comme si c'était une jeune fille que je portais à l'intérieur de moi, que je voyais agir, bien que ça soit très clair que... on n'est pas la même personne. C'est comme si c'était une autre potentialité de moi, quelqu'un que j'aurais pu être. Et les autres personnages qui évoluent autour d'Isor sont complètement fictifs. Ils habitent à Paris. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence à Paris. Donc il y a des points communs, mais les autres personnages, pour moi... Ne viennent pas de choses que j'ai vécues. Je les ai créées parce que le centre du roman, c'est Isor. C'est comme si c'était la pierre précieuse au centre de tout et que j'avais voulu créer une intrigue qui soit le plus bel écrin pour qu'on comprenne qui elle est. Et c'est comme ça que je me suis dit, quelles aventures pourraient lui arriver pour qu'on comprenne le mieux sa personnalité, pour qu'on pour qu'elle se dévoile le mieux. Et c'est pour ça que j'ai créé ces personnages. Voilà. J'espère que ça répond à ta question.
Autre question ? Oui ? Il faut faire du jogging un peu hein, pendant le festival.
Bonjour. Quel message, s'il y en a un, voulez-vous transmettre à travers votre roman ?
Un message de liberté. que si on ne se sent pas bien dans un cadre, ce n'est pas nous qui sommes, qui avons un problème, c'est le cadre qui en a un et qu'il faut en sortir. Isor, on lui fait comprendre qu'elle est malade, enfin les médecins veulent lui faire croire qu'elle est malade, que si elle ne veut pas aller à l'école, ce n'est pas normal, que si elle ne veut pas parler, ce n'est pas normal. Et que voilà, la vie standard d'une enfant et d'une adolescente, si elle ne veut pas la vivre, c'est elle qui a un problème. Non, peut-être pas. Et moi, je crois fondamentalement que s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, c'est que dans ce cadre qu'on nous propose, il y a quelque chose qui cloche et qu'il existe forcément quelque part ailleurs autre chose, un autre chemin qui est le bon. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu encore plus important pour moi par rapport à l'écologie, etc., de me dire c'est pas moi qui suis inadaptée à la société, c'est la société qui est malade sur certains aspects. Et c'est ça qu'elle vit, Isor. Elle décide de partir, vivre son rêve de liberté et de sincérité. Et c'est ce désir auquel elle fait confiance. Elle ne fait pas confiance à ce qu'on lui dit qu'elle doit faire, elle fait confiance à ce qu'elle ressent intimement, profondément. Voilà, donc je vous invite à faire pareil.
Et justement, c'est un roman qui s'adresse à tout le monde, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. En dehors de l'histoire particulière, spécifique d'Isor et de ses particularités, de la façon dont elle ressent les choses, c'est effectivement un roman dans lequel peu ou prou tout le monde peut s'identifier à un moment donné. Et justement, sur cette question de sortir du cadre, c'est un roman très, et moi je trouve ça très bien, qui va rebrousse-poil de plein de choses de la société actuelle, notamment par exemple le développement personnel, où on nous dit qu'il faut qu'on se change soi pour s'adapter à la société. Là, c'est vraiment, vous dites bien, effectivement, non, c'est la société qui ne va pas.
Oui. merci pour votre remarque, je suis d'accord.
Autre question ? Oui.
Bonjour madame. Pourquoi avoir choisi la Sicile comme lieu de renaissance pour Isor ?
Alors, pour moi, si Isor c'était un paysage, ça serait la Sicile. Je crois beaucoup qu'on a chacun un paysage qui reflète qui on est. Une fois qu'on l'a trouvé, et si on a la possibilité de déménager pour aller vivre dans ce paysage, je pense que c'est vraiment une source d'un grand bonheur. À la Renaissance, il croyait beaucoup à la théorie des quatre humeurs. Il pensait que soit on avait un tempérament plutôt sanguin, soit bileux, soit... il y avait quatre humeurs qui étaient liées aux quatre éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu. Et Isor, elle, c'est vraiment un personnage du feu. C'est très clair que c'est ça qui guide sa vie. Ses tempéraments, ils s'épanouissent ou ils s'équilibrent dans certains lieux. Et pour Isor, elle a besoin de vivre dans un territoire où c'est aussi le feu qui est prédominant. Parce qu'à Paris, tout le monde lui fait comprendre que cette intensité, ce feu qu'elle a en elle, c'est trop. Mais quand elle va en Sicile, elle se rend compte que tout autour d'elle, les montagnes, les volcans, les gens, tout correspond à cette intensité qu'elle vit. Et que elle se sent en harmonie. Pour la première fois, elle se sent en harmonie et plus en décalage. Entre Isor et le volcan, il y a cette même énergie, le côté éruption volcanique. Une éruption, ça survient quand il y a un surplus d'énergie qui ne peut pas sortir. Et du coup, ça explose. Et c'est ça que vit Isor, c'est qu'elle a toute cette vitalité en elle, mais qui est complètement étouffée. Et du coup, ça explose. Et alors qu'en même temps, les volcans, c'est la pure énergie vitale de la Terre. Et Isor, c'est la pure énergie vitale de vouloir vivre. Voilà, c'est ça la réponse.
Autre question ? Tout devant.
Hypersensibilité, précocité, autisme, pour vous, laquelle de ces particularités concerne Isor ?
Je te remercie pour ta question. Donc, comme tu as pu peut-être le voir, dans le roman, il y a un passage où Isor passe par plein de médecins et les médecins ne savent pas ce qu'elle a. Ils n'arrivent pas à mettre un mot. Par ce passage du texte, c'est une manière pour moi de donner mon avis sur ce que je pense des catégories psychiatriques. De dire « Ah, mais toi, tu es surdoué, toi, tu es schizophrène, toi, tu es bipolaire. » Moi, je pense que c'est des catégories qui nous aident pas. Enfin, les personnes concernées, je crois pas que ça les aide beaucoup. Et c'est une vision qui est très désenchantée, où il n'y a pas de magie. Pour moi, ce qui définit Isor avant tout, c'est son rapport à la poésie. En fait, je m'en fiche de savoir si elle est autiste, si elle est surdouée, si elle est hypersensible. Elle a juste un rapport particulier avec la poésie du monde, et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que le formuler comme ça, ça peut l'aider, cette jeune fille, et ça peut aider aussi les gens qui vivent ça quand même, de dire c'est pas une sorte de trouble ou de déficience psychiatrique. C'est un autre rapport au sacré, c'est un autre rapport à la magie, c'est un autre rapport à la beauté. Voilà, ouais.
Ça, c'est quand même un passage fort, si je peux me permettre, un passage fort du livre. Moi, j'ai trouvé justement sur le rapport à la médecine officielle, à la psychiatrie officielle. Chacun veut trouver. Et il y a un certain nombre de remarques qui sont venant de la part qu'on voit très bien. Enfin, moi, je les imagine très bien comme étant presque du vécu, enfin, même si ça ne l'est pas, mais tout à fait crédible. Il y a une médecin qui dit « Ah, je ne sais pas trop ce qu'elle a ». Mais j'ai un ami qui tourne un film sur les enfants sauvages. Est-ce que vous acceptez, comme si c'était un animal de foire, un phénomène curieux qu'il faut à tout prix disséquer et après, tout le monde s'en mêle, y compris, je ne sais plus si c'est la femme de ménage, enfin quelqu'un qui est proche, qui dit « Ah, mais moi, vous savez, dans ma famille, moi, ce que je crois, etc. » Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même très réaliste, justement, du rapport qu'on peut avoir à ce type de différence où on veut absolument mettre les gens dans les cases, en fait.
Oui, et disons, je ne sais pas si peut-être c'est des thématiques qui vous touchent ou pas, mais pour moi, tout ce qui relève de la neuroatypie, la neurodivergence, pour moi, ce n'est pas avant tout une question d'intelligence ou pas, c'est vraiment une question d'émotion. Moi, j'ai eu tendance, parce que quand j'étais petite, on m'a collé l'étiquette de surdouée, à essayer de comprendre ma différence sous l'angle de l'intelligence. Et en fait, ça ne m'a pas du tout aidé à comprendre qui j'étais. Ce qui m'a aidé à comprendre, enfin, ce qui m'aide un peu à mieux comprendre qui je suis, c'est l'intensité des émotions que je vis. Et disons, je crois que les personnes qu'on qualifie de neuroatypiques, c'est des personnes qui, dans d'autres sociétés, à d'autres époques, avaient des rôles de prêtresse ou de chamane ou d'homme médecine, ou en tout cas des gens qui pouvaient guider les autres par leurs capacités différentes. Et c'est ça qu'Isor elle fait, c'est qu'à un moment, à la fin, les parents disent qu'elle n'a pas compris que c'est la tâche des anges. Mais c'est qu'Isor elle se donne une fonction sacrée de renouer les liens, qui est une fonction que aujourd'hui on n'investit plus parce qu'on... Ça nous paraît trop mystérieux, cette fonction de faire le lien. Et pourtant, quand on vit dans un groupe, c'est super important qu'il y ait quelqu'un qui sache renouer les liens, qui sache réparer les relations. Et Isor, à la fin, elle répare la relation avec ses parents, de ses parents entre eux, de Lucien avec sa fille, de Lucien avec ses propres parents à elle. Et c'est vraiment une tisseuse de liens et une guérisseuse qui amène le pardon, qui guérit les âmes blessées. Et donc, c'est un autre regard que j'ai envie d'apporter sur la neuroatypie. C'est sous cet angle d'être des êtres qui sont capables de guider les autres et de les guérir. Voilà.
Autre question ?
Merci. Bonjour. Quelle place occupe la lecture et l'écriture, pardon, dans votre vie ?
Alors aujourd'hui, est-ce que ça va mieux avec la lecture ? Puisque avant, c'était carrément, vous avez cité le mot de haine. La haine de la lecture, c'est quand même fort.
Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai un rapport plus apaisé à la lecture. Je pense que j'ai souffert à tort de ce cliché qui dit que quand on lit, on vit pas. On vit par procuration quelque chose et on n'est pas en train de faire une action concrète. On s'extrait de la vie, on est juste un rêveur. Et il y a un peu cette image du premier de classe qui lit et qui n'a pas d'amis, qui fait rien de ses week-ends, qui vit dans un monde imaginaire. Et moi, j'avais super peur de vivre dans un monde imaginaire. Je voulais vivre dans un monde réel où il se passe des vraies choses. Et depuis que j'arrive à me détacher un peu de cette image, de ce cliché, et que je comprends qu'il se passe aussi des vrais événements intérieurs, les événements intérieurs ne sont pas moins réels, moins importants, moins puissants qu'un événement concret. Par exemple, se casser le genou, ce n'est pas moins important que d'un coup... comprendre sa relation au pardon ou je sais que sais-je. Ces deux événements de ma vie qui ont le même poids. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai beaucoup plus aimé lire. et aujourd'hui, la place pour l'écriture dans ma vie, pour moi, c'est comme une sorte de pratique spirituelle ou de pratique méditative d'écrire, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. C'est un moment que je prends pour... faire le point sur ce qui se passe pour moi et pour être sincère envers moi-même parce que au quotidien, il y a plein de petites choses sur lesquelles on se ment sans forcément de mauvaises intentions mais où des moments où on s'imagine plus fort qu'on est ou plus gentil ou... et de prendre ces temps pour être vraiment honnête et sincère avec soi-même et dire ok, là j'ai vraiment ressenti ça et peut-être c'était pas beau à voir mais c'est ça que j'ai vécu. Ça me semble vraiment important pour essayer de progresser un petit peu. Donc c'est comme ça que je pratique l'écriture.
Et alors par rapport à la lecture, est-ce que puisqu'il y a eu toute une période où vous ne lisiez pas, est-ce qu'il y a un genre de phénomène de vouloir rattraper le temps perdu ? Est-ce qu'il y a une boulimie de lecture ou pas spécialement ?
J'ai eu une grosse boulimie de lecture en sortant de la prépa. Parce que j'avais enfin du temps pour moi. Parce que je trouve qu'on nous demande tous de travailler trop. Je ne devrais peut-être pas dire ça devant une classe de lycéens. Et je trouve que, en tout cas, dans le lycée où j'étais, on nous demandait de travailler trop. Que de rester 8 heures par jour assis à une table, c'est pas viable et qu'ensuite bon la prépa on n'en parle pas pour moi c'est une prison et du coup quand je suis sortie de tout ça que j'avais enfin du temps pour moi là j'avais une boulimie de lire tout ce que je voulais et c'était un acte de liberté de pouvoir faire ça.
Et alors vous lisez comment, enfin je veux dire vous lisez en vous êtes fait des listes ou vous lisez comme ça vous vient, comme on vous conseille selon les hasards des rencontres, en sérendipité si un auteur en cite un autre.
Oui, pour moi, on rencontre un livre comme on rencontre une personne. Il doit se passer quelque chose de magique. Et les rencontres fortes qu'on peut faire avec un livre, c'est vraiment comme une rencontre amoureuse. C'est qu'à ce moment-là de notre vie, on avait besoin de ce livre, on avait besoin de ce message, on avait besoin de rencontrer ce personnage, parce que ça va débloquer quelque chose de profond en nous. Et ça, on ne peut pas trop le trouver si on fait des listes. Je pense qu'on peut le trouver, oui, à droite à gauche, on repère des petits signes. Ah tiens, ça fait 3 fois que quelqu'un me parle de cet ouvrage et je tombe dessus par hasard à la librairie. Et que naturellement, essayer de comprendre quels signes la vie m'envoie pour que je lise tel ou tel livre, pour que ces livres soient réellement des rencontres.
Soyez attentifs aux signes.
C'est ça.
Autre question ? À côté. Il lui faut le micro.
Bonjour. Aimeriez-vous que votre livre soit adapté en film, pièce de théâtre, BD ou autre ?
Ah oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'il soit adapté au théâtre, parce qu'il a déjà un côté théâtral. Et que l'expérience du théâtre, elle a ça de spécial qu'on est tous ensemble dans la même salle physiquement, contrairement au cinéma. Mais oui, j'aimerais beaucoup voir comment chacun se saisit d'Isor, parce que ce qui a été assez magique durant la promotion du livre, c'est de voir comment Isor a pris une place réelle dans la vie de plein de gens. Qu'elle s'est mise vraiment à faire partie de leur famille, qu'elle s'est mise aussi à... Enfin, des gens qui me disent « Ah, mais ça m'a réconcilié avec telle ou telle personne », qu'elle a vraiment eu une action concrète. Et donc, je serais heureuse de voir comment un autre artiste que moi se saisirait d'elle, comment ça pourrait toucher encore un autre public. Parce que, comme j'ai l'impression que c'est une jeune fille qui a le pouvoir de nous faire du bien, bah, j'aimerais bien qu'elle déploie le plus largement possible ce bienfait. Donc, je serais heureuse que ça se passe. Ouais.
Tout à l'heure, vous parliez de magie. Là, c'est la magie de l'écriture et de la lecture qui opère dans la réalité, pour le coup. Autre question ? Oh, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Alors, derrière et puis après la jeune fille devant.
Pouvez-vous nous éclairer sur l'évolution de la parole d'Isor entre le début et la fin du roman ?
Oui, tu veux dire comment elle se met à parler petit à petit ? Factuellement, il y a des étapes pour passer de zéro au fait d'écrire des lettres. Il y a notamment l'étape où elle se met à parler des langues qu'elle imite, mais qui ne veulent rien dire. Pour ensuite... Parce que, donc, pourquoi Isor ne parle pas ? Parce que elle pense que ce qu'elle a à dire ne va pas rentrer dans les mots, que les mots sont trop étroits, que la grammaire, la syntaxe, le sens des mots sont trop étroits, que ce qu'elle a à dire, c'est trop grand. Et elle se dit... Le seul espace où il y a assez de place, c'est le silence. Comme si le silence, c'était une immensité, un désert, une scène vide, et que là, dans cet espace immense, elle pouvait mettre tout ce qu'elle a à communiquer. Mais elle se rend compte petit à petit que, en fait, dans le langage aussi, elle peut transmettre la puissance de ce qu'elle vit, mais qu'il faut qu'elle fasse bouger le langage. C'est pour ça que au début elle comprend qu'avec le fait de verbaliser des sons quand elle imite des langues, il peut se passer une émotion. Sa mère dit qu'elle comprend ce qu'elle veut dire parce qu'elle peut faire passer une émotion, et à la fin elle comprend que c'est en cassant la grammaire qu'elle peut redonner une puissance de signification aux mots. Ouais, voilà. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais c'est ça ma réponse.
Mais c'est vrai qu'à la fin, même si la syntaxe est complètement bouleversée, les mots parfois un peu légèrement tordus, en tout cas, on comprend tout à fait ce qu'elle veut exprimer. Et comment est-ce que vous avez travaillé cette partie-là, qui, moi, je trouve remarquable, parce que justement, c'est pas un français qu'on va qualifier de correct, mais à la fois, il est plein d'images, il est plein de poésie, il est plein d'émotions. Comment est-ce que vous avez travaillé ces lettres-là et cette façon de s'exprimer ?
Ça vient d'une croyance que j'ai, qui est pas personnelle, qui se vérifie quand on s'intéresse à l'histoire de la langue, qui est que les mots s'érodent petit à petit. Des mots qui avaient un sens très très fort étymologiquement, comme par exemple être étonné, littéralement, ça veut dire être frappé par le tonnerre. Et aujourd'hui, ça devient juste être surpris. Les mots perdent leur signification, pour se mettre à vouloir dire quelque chose de plus en plus faible. Et je me suis demandé comment on pourrait retourner au sens originel des mots. Il y a plusieurs choses qui m'ont inspirée. Il y a le fait que je donnais des cours de français à un réfugié qui, donc, il avait déjà un peu appris la langue, mais donc c'était pour vraiment perfectionner son français. Mais il avait appris en entendant parler autour de lui sans grammaire. Et le français qu'il parlait était vraiment très, très, très vivant et très frappant. Et avec juste une énergie de signification qui s'affranchissait des règles. Il a juste une information à communiquer et elle passe par un chemin qui est très direct, même si ce n'est pas forcément le bon. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis comme la foudre qui tombe par un chemin franc, comme ça. Je me suis dit comment je pourrais essayer de créer cette impression avec les lettres d'Isor pour que on sente que c'est l'information qui passe en force au dépit des détours étranges des mots. Et la deuxième chose qui m'avait inspirée, c'était l'ancien français, vu que je l'étudiais à l'université. Les mots ont souvent un autre sens plus proche du latin que ceux qu'on leur donne aujourd'hui, et ça m'a permis aussi de comprendre comment évolue une langue et comment Isor, qui a des choses si fortes à dire, pourrait se saisir du langage. J'ai l'impression que je tourne un peu en rond là, mais voilà.
Compris le principe. Alors, il y avait la jeune fille et après mademoiselle.
Vous aviez dit que vous continuez à écrire, et du coup, je me demandais si vous aviez un deuxième roman que vous étiez en train d'écrire.
Quand j'ai eu fini La colère et l'envie, quand j'ai fini, dans la région où j'habite, il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai eu fait », et à chaque fois je me dis « c'est pas français », puis là je viens de l'utiliser, mais c'est
si,
pas grave,
si, ça, c'est si, français. Si, c'est complètement français.
D'accord.
Dans ma région natale, on le dit beaucoup.
Ok, très bien.
Donc il faut le dire.
Quand j'ai fini La colère et l'envie, j'avais tout de suite un autre projet qui a germé, j'avais le titre, j'avais les personnages, je savais de quoi je voulais que ça parle. Mais là, je sens que c'est plus un livre qui est pressé de sortir, un peu comme un enfant qui est pressé de sortir du ventre. Je sais que ce livre, il va venir un jour. Mais je ne me sens pas pressée parce que j'ai l'impression d'avoir vécu l'émancipation que vit Isor et d'avoir enfin pu donner à ma vie le côté vraiment d'aventure que j'avais envie qu'elle ait. Et du coup, je sens qu'aujourd'hui, mon énergie créatrice, elle passe beaucoup plus dans le fait de créer ma vie que de créer des textes. Au lieu d'écrire des choses belles, d'écrire des choses touchantes, de vivre moi-même des choses belles et touchantes. Donc c'est un nouveau rapport à la création. qui me prend beaucoup de place. Et c'est une phase que j'ai besoin de vivre. Mais je sais que quand j'aurai mieux compris ça, je me remettrai à écrire beaucoup plus et que mon deuxième roman va venir. Peut-être entre-temps, il y aura un recueil d'essais sur l'écologie. Parce que ce projet de roman parle du fait de changer de mode de vie, de partir d'un mode de vie urbain, vivre à la ville, aller à l'école ou avoir un métier et passer habiter dans un jardin, produire ses propres légumes, se mettre un peu hors de la société du travail. Ça parle de cette transition-là. Donc, c'est un sujet qui est très vaste et peut-être qu'avant, j'essaierais de l'aborder par des petits essais.
À moins que l'éditeur ne mette la pression, il nous faut absolument un deuxième roman. vu le succès du premier.
Pour l'instant, elles sont patientes.
Tant mieux.
Bonjour. Alors, j'ai deux questions. La première, est-ce que vous pouvez nous traduire la petite citation de Chrétien de Troyes ?
Absolument.
S'il vous plaît.
Donc, en ancien français, c'est clair et riant, furent les hull en la teste au Valais sauvage. Ça veut dire clair et riant étaient les yeux sur le visage du jeune homme sauvage. Et ça parle de Perceval, qui est un personnage qu'on connaît un peu grâce à la série Kaamelott, peut-être, qui est un personnage qui est. Dont on retient surtout qu'il est très maladroit. Mais en fait, c'est un personnage qui n'a pas appris les codes de... Dans le texte de Chrétien de Troyes, c'est un personnage qui n'a pas appris les codes de communication parce que sa mère l'a élevé en huis clos chez elle. Ça ressemble beaucoup à la situation du huis clos de Isor avec ses parents. Et Isor qui ne maîtrise pas du tout les comportements qu'il faut avoir en société pour interagir les uns avec les autres. Et un jour, Perceval, il décide de s'enfuir. Enfin, c'est le début du texte de Chrétien de Troyes. Il décide de partir parce qu'il, d'un coup, il comprend ce que c'est son destin. Il a un sens du destin. Et Isor aussi, il y a un moment où elle comprend ce que c'est sa mission et elle part faire son voyage. Et j'avais l'impression que Perceval, c'était une sorte d'avatar au Moyen-Âge d'Isor.
Comme un voilà. Déclic un peu.
C'est ça.
Et alors, est-ce que vous aimez Amélie Nothomb ?
Alors,
vous avez le droit d'en dire du mal. Hein,
je n'avais jamais vraiment lu de littérature contemporaine jusqu'à cette rentrée littéraire qui m'a de fait plongée dans les autres auteurs qui publient en même temps que moi. Donc, je n'ai lu d'Amélie Nothomb que son premier livre et son dernier livre. Donc, je ne me permets pas encore d'avoir un avis. Mais j'ai beaucoup aimé son dernier livre. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé son dernier livre.
On a compris qu'il y avait une fan là. Autre question ? Oui, là-bas.
Rebonjour. Quelle question auriez-vous envie de poser à vos lecteurs ? À vos lecteurs.
Waouh, merci ! Elle est trop chouette cette question. Waouh, ok. C'est une très belle question. C'est toi qui l'as trouvée ? Alors une question. Déjà, j'ai envie de vous remercier d'avoir lu le livre et d'avoir laissé une place à cette petite fille en vous et d'avoir laissé une place à cette rencontre. Ça me touche beaucoup que vous la fassiez exister en lisant son histoire. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Si j'avais une question, ce serait peut-être c'est quoi la magie ? Est-ce que vous croyez en la magie ?
Mais alors, quelle magie ?
Qui a envie de répondre à ma question ? Est-ce que vous croyez en la magie ? Quelle magie ?
La magie du monde, la magie des magiciens d'Harry Potter ?
Non, pas la magie des magiciens. La magie. C'est à vous de me dire en quelle magie vous croyez. Est-ce que vous croyez en une magie et laquelle c'est ? Est-ce que vous avez des souvenirs d'événements magiques où vous vous êtes dit « Ok, là, la vie m'envoie un signe, elle me dit de faire ça, et si je suis le chemin qu'elle m'indique, il se passe quelque chose de merveilleux ?»
Alors, qui répond, là ?
Oui.
Alors
la bénévole, hein. Voilà. Oui, plusieurs fois, il m'est arrivé dans ma vie de croiser différents signes, peut-être même des signes de l'au-delà, qui sait. Mais je sais que plusieurs fois, j'ai croisé des choses qui m'ont guidée vers ma voie aujourd'hui, qui est d'étudier la littérature. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont guidée dans cette voie-là, et voilà, je suis contente.
Merci pour ta réponse.
Qui d'autre a eu des signes ou pense en avoir vu et veut bien témoigner de ces signes?
Alors, bonjour. Tout à l'heure, vous nous parliez de la magie d'une rencontre. Et vous nous aviez dit qu'avec Isor, c'était avant tout une rencontre avec ce personnage. Et c'est là que je me rends compte que oui, on peut croire à la magie qui s'opère quand on rencontre une personne, que ce soit à travers de la musique, avec quelqu'un de réel, avec même quelqu'un qu'on peut s'imaginer. Il peut toujours y avoir cette magie de la rencontre avec cette nouvelle personne.
Merci.
Là-bas, madame, la professeure de français.
À ce propos, justement, hier soir, j'ai commencé à corriger les sujets de brevet de 3e.
Et la magie a opéré, tout le monde a 20 sur 20.
Que j'étais de plus en plus dépitée quand tout à coup, non pas un, mais un double arc-en-ciel s'est dessiné dans le ciel en face de chez moi par la fenêtre, qui m'a dit « Il fait soleil, tu devrais sortir prendre l'air ». C'est ce que j'ai fait.
Bon, vous savez à quoi vous attendre pour les résultats des copies, hein. Alors peut-être encore un témoignage ou d'autres questions, y compris maintenant que les collégiens ont...
Au fond, voilà. Il y a monsieur qui lève la main.
Voilà, j'allais dire maintenant que les collégiens ont bien posé les leurs, peut-être dans le public plus large.
Bonjour, je m'appelle Serge, et je voudrais savoir, à travers ce livre, où Isor paraît, quel est le rapport au corps? Parce que vous avez parlé de méditation, vous avez parlé de psychisme, de maladie, enfin de pas de maladie, non, de savoir ce qu'elle avait et qu'on ne savait pas ce qu'elle avait, mais quel est son rapport au corps à travers le livre?
Oui, vous avez dit, il y a un mot que je n'ai pas compris, vous avez parlé de, nanan, ça se finissait en sion, le mot?
Par rapport à Isor, j'ai parlé de qu'on ne connaissait pas sa maladie.
Oui.
Je crois qu'on ne la connaît pas.
Oui, oui.
On ne sait pas ce qu'elle a. Oui. Elle voudrait, elle veut pas, mais elle pourrait, comme disent les médecins, mais on ne sait pas ce qu'elle a. Et moi, j'aurais voulu savoir quel était le rapport au corps.
Oui, oui. Il y a un passage, je pense que c'est un des deux parents qui dit... Non, c'est Lucien peut-être, je ne sais plus, qui l'admire le fait que... Oui, c'est Lucien par rapport à la musique, que Isor a un rapport corporel à la musique. Elle n'a pas un rapport intellectuel. Si elle comprend les subtilités de la musique, c'est par son corps. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Les gens qui tirent leur intelligence et leur compréhension du monde de leurs sensations physiques, du fait qu'ils sont un corps ancré dans la matière. Isor, elle est profondément dans son corps. Elle ressent très fort les sensations, les couleurs, les textures des objets autour d'elle. Elle passe beaucoup de temps à toucher les objets. Elle aime les matières. Quand elle raconte dans sa lettre sa première expérience de se baigner dans la mer, c'est une expérience qui est très très forte sensoriellement pour elle. Et pour moi, dans la manière dont je comprends la neurodiversité, ce rapport très particulier au corps, il a une grande place parce que j'ai l'impression que les personnes neuroatypiques ont à la fois une aptitude à maîtriser très bien les raisonnements abstraits, et c'est quelque chose qu'on met beaucoup en valeur. Par exemple, on imagine un mathématicien dans la Silicon Valley qui fait des calculs abstraits toute la journée, mais en fait je pense que c'est un double, c'est les personnes neurodivergentes ont ça, mais ont aussi un fort ancrage dans leur corps, d'être sensibles au bruit, d'être sensibles à tout l'environnement autour d'eux, d'une manière qui est parfois envahissante. Et pour moi, cette capacité à faire le lien entre la terre, les sens, le corps, et quelque chose de plus abstrait, ça fait partie de cette conception que j'ai, que c'est des êtres qui sont là pour relier quelque chose, relier les gens, relier les deux espaces du spirituel et du corporel. Et j'avais besoin moi-même d'écrire sur ce personnage qui est beaucoup dans son corps, parce que moi j'ai beaucoup souffert d'être trop loin de mon corps, parce que justement on m'avait dit ce qui te caractérise c'est d'être intelligente. Le mode de vie qu'on vit aujourd'hui, où on vit en ville, on vit dans un environnement sensoriel qui est pauvre voire douloureux, ça nous éloigne beaucoup de notre corps, je trouve. Alors que le corps, c'est un endroit de plein de plaisirs merveilleux. Manger, c'est un plaisir immense. Dormir, c'est un plaisir immense. La tendresse avec les êtres chers, c'est un plaisir immense. Et c'est finalement l'endroit qu'on devrait habiter en tout premier. On devrait en tout premier habiter son corps. C'est la première maison qu'on a, et pourtant c'est la maison où on habite le moins. Voilà, ça fait beaucoup d'idées différentes pour répondre à votre question, mais la question du corps m'intéresse beaucoup.
Quelque chose qui est parallèle, sans doute. Vous avez dit aussi dans une interview que vous avez une tendance aussi propension à la synesthésie, donc qui est le fait qu'on superpose des perceptions et que, par exemple, on voit des mots en couleur, etc. Et là, vous dites, par exemple, dans cette interview que, pour vous, la deuxième partie, celle de Lucien, elle est de couleur gris-bleu.
Ah oui.
Et alors, quelles sont les autres couleurs de la première et de la dernière partie ?
La dernière partie, elle est assurément rouge et orange. La première partie, c'est peut-être moins clair dans mon esprit. Peut-être qu'elle est mauve. Mais disons, moi, les couleurs, c'est ma manière de classer les choses, de mémoriser les choses en leur attribuant des... Enfin, je leur attribue pas des couleurs, c'est mon cerveau qui fait ça tout seul. Et ça me permet de me repérer. C'est assez... J'essaye encore, j'ai pas tout à fait compris... à quoi pouvait mener cette capacité, mais je pense que ça, à l'école, ça m'a beaucoup aidé à mémoriser tout un tas de trucs. Et je me rends compte que être dans une pièce qui est d'une couleur que j'aime, ça, immédiatement, ça me procure un grand bien-être. Donc j'ai envie d'essayer de comprendre à quoi ça peut me mener tout ça, mais voilà.
Ok. Une autre question, madame ? Et après, peut-être une dernière. Madame qui est ici, là, devant.
Oui, bonjour, merci. Bonjour. Pour tout. Voilà, moi, ce qui m'a interpellée aussi dans votre roman, c'est le rôle des parents. Bon, mais c'est sûr, par rapport aux jeunes. Voilà, le rôle des parents qui sont vraiment dépités devant leurs filles, devant les médecins et tout ça. Et ben, là, c'est le métier le plus difficile, hein, celui d'être parent. Et je pense que les parents qui ont un enfant qui est atypique doivent rencontrer les mêmes difficultés. Et je voulais savoir si vos parents, si vous étiez surdoués et hors du commun, ont rencontré des difficultés ou vous en avez souffert.
Aujourd'hui, je n'ai pas de reproche à faire à mes parents. Ils se sont beaucoup renseignés pour essayer de comprendre... très clairement ce dont mon frère et moi, mon frère qui est dans le même cas, on avait besoin. Et j'ai senti beaucoup de... Même dans les moments où je ne me sentais pas forcément comprise, j'ai senti qu'ils faisaient beaucoup d'efforts pour me comprendre. Donc, non. mais par exemple, c'est important pour moi qu'il y ait la figure du père qui est dans le refus total de son enfant et dans une forme de violence. Il laisse souvent des mots brutaux pour elle, parce que je pense que même des parents qui ont un enfant entre énormes guillemets normal, il y a des moments où on a des pensées qu'on ne voudrait pas avoir, de regretter l'existence de quelqu'un ou d'être tellement fâché qu'on voilà, on a l'impression de gâcher sa vie pour lui. Et en fait, qu'il y ait un personnage qui verbalise ce pôle horrible, je pense que ça permet à beaucoup de parents de se dire que c'est pas grave de penser ça à un instant T. En fait, et particulièrement par rapport au handicap, je pense que au handicap, c'est pas du tout le mot que je voulais employer. Mais est-ce que, bon, pour beaucoup de gens, être neuroatypique c'est un handicap. Il y a forcément des moments où on aimerait que ça soit plus facile. On aimerait avoir un enfant plus facile. Et c'est ok de ressentir ça à certains moments. Ça veut pas dire qu'on aime mal notre enfant, parce qu'en fait, le père d'Isor, on se rend compte finalement que c'est lui qui arrive le mieux à accepter son émancipation. Et au contraire, la mère, c'est peut-être elle qui empêchait le plus Isor de grandir. Donc c'était important pour moi de que les parents puissent s'identifier à ces deux figures très différentes pour peut-être sortir du déni sur ce qu'ils ressentent eux-mêmes vis-à-vis de leur enfant. Voilà.
Une dernière question, peut-être ? Ou pas ? Alors, peut-être si, une dernière sur le prénom d'Isor, qui est un prénom inhabituel. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Isor en particulier ? Alors, moi, je trouve que ça sonne un peu médiéval. Donc, comme vous faites des études médiévales, peut-être c'est aussi un amour de ce prénom. Il y a une explication qui est fournie par Lucien. Enfin, lui, il y voit un mélange entre Isidore de Séville, donc un espagnol du, je crois, 6e siècle, et un peu un côté russe avec le Igor, qui lui rappelle Michel Strogoff, les romans d'aventure. Est-ce que c'est le sens que vous lui donnez aussi, ou est-ce que vous l'avez choisi pour d'autres raisons, ce prénom ?
Je n'ai pas choisi ce prénom. Il m'est vraiment venu. Je pense que, enfin, quand je disais que écrire pour moi, c'est sortir de mon corps, c'est me connecter à un espace où cette histoire existe déjà. J'ai l'impression que je n'invente rien. J'arrive à me connecter à un espace où Isor, Lucien, Maud et Camillo existent. Et je décris ce qu'ils font. Et c'est une faculté un peu de voyance, d'arriver à voir cette histoire qui existe quelque part. Et j'ai vu qu'elle s'appelait Isor. Je n'avais pas. C'est les lecteurs à chaque fois qui font le lien avec le côté médiéval. Moi, je n'y avais même pas pensé, mais je pense que c'est important. Je pense que ça a joué un rôle dans mon inconscient. Moi, quand je cherchais quel prénom elle avait, et non pas quel prénom lui donner, quel prénom elle avait, je sentais que c'était un prénom qui se finissait en or. Parce que c'est une sonorité pour moi associée au feu, à quelque chose de brillant, d'éclatant, voilà, comme le métal, l'or, c'est ça l'alchimie. Voilà.
Parfait. Ben écoutez, merci. Je pense qu'on peut. Sinon, il y a une. Pardon. Attendez, il y a une dernière question et après on applaudit.
Bonjour. Moi, je voulais savoir pourquoi imposer une telle frustration, une telle violence aux parents d'Isor quand on voit que Isor, elle parle à Lucien, mais pas à ses parents, et que même à la fin, Isor, elle envoie des lettres à ses parents, mais au final, elle ne leur parle jamais en face et ils n'auront jamais cette satisfaction de parler avec leur fille.
Oui. Le livre n'est pas fermé sur le fait qu'un jour, elle va parler avec eux. T'as le choix, si tu veux, de penser qu'Isor le fait par méchanceté. Moi, c'est pas comme ça que je le perçois. J'ai l'impression que elle le fait parce qu'elle sent que ce qu'elle a à dire ne serait pas entendu, que ses parents ne sont pas prêts à l'entendre et que Lucien, lui, il est capable. En tant que photographe, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de témoigner de ce qui se passe. Il voit qu'il se passe quelque chose, il prend une photo et il dit « Ok, il se passe ça ». Et il n'a pas de jugement sur ce qui se passe. Il a juste un rôle d'acter qu'il se passe ça. Et quand Isor arrive dans sa vie, il peut dire « Ok, tu es comme ça, tu vis ça ». Alors que pour les parents, c'est « Ah, oh, tu vis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que tu t'es blessé ? Est-ce que ça veut dire que tu veux me dire ça ?» Par exemple, quand Isor offre le nid, c'est tout un bouleversement de questions. « Ah, oh, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Elle veut me dire qu'elle veut me quitter ? » Est-ce que... Et il y a tout de suite de l'inquiétude, de la peur qui se déclenche. Alors que Lucien, juste, il dit « Ok, elle a fait ça, point. » Et elle se manifeste dans cette action-là, point. Et du coup, il n'y a pas de projection ou de peur. Et du coup, il est capable de l'entendre. Et même par rapport aux lettres, tu sais... Il y a un moment où les parents réalisent que jusqu'ici, ils n'avaient pas vraiment lu les lettres. Ils les avaient lues comme les pièces d'une enquête dans un roman policier. Et il y a un moment où ils se disent « Ah, mais là, il faut enfin qu'on commence à l'écouter, notre fille. » Et ils se disent « Est-ce qu'on avait écouté son silence ?» Non, vous ne l'aviez pas écouté, son silence. Vous aviez cherché quelque chose au-delà de ce silence, mais vous n'aviez pas... Oui, vous n'aviez pas accepté qui elle était. Voilà.
Et dans les lettres d'Isor, effectivement, il n'y a pas de ressentiment. Elle aime ses parents, elle les comprend. On sent qu'elle comprend aussi pourquoi ils ont été comme ça avec elle, ce qu'ils ont pu penser, souffrir, etc. Et il y a un accueil aussi de sa part à elle de ses sentiments. Et puis, voilà, on peut, enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu comme ça, du coup, espérer, supposer qu'à son retour de Sicile, là, les liens vont être absolument différents. Voilà, merci.
Merci.